Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud. Etei Yoma, page 56, Daf Nun Vav. Bonne écoute et bon limoud.
Asara, Maaser Rishon. 10 autres looks, les 10 looks suivants que je prélèverai plus tard, sont désignés déjà dès maintenant comme étant Maaser Rishon, qui est la première dîme destinée au Lévi. En fait, pour cette première dîme, il faut prélever un dixième de ce qui reste après avoir prélevé la Trouma. Donc en fait, c'est 9,8 loups qu'il aurait fallu prélever. Mais la Mishnah a enseigné de cette manière, donc 10 loups, pour simplifier. Tisha, Maaser Sheni. Les 9 loups suivants que je préleverai sont destinés déjà, dès maintenant, à être Maaser Sheni. Alors pour le Maaser Sheni, ce qui est cette deuxième dîme, il fallait prélever un dixième de ce qui reste après avoir prélevé la Trouma et la première dîme. Donc en fait c'est un peu moins que 9, mais la Mishnah enseigne de cette manière pour simplifier. Cette deuxième dîme était soit montée à Yerushalayim pour la consommer, soit on l'a rachetée et c'était la contre-valeur qu'on montait à Yerushalayim pour le consommer. Ou Mechal, et il rachète cette deuxième dîme, c'est-à-dire il désigne une somme d'argent pour le racheter, le Shotemiyad, et il peut boire le reste du vin en faisant bien attendu attention de laisser cette quantité qu'il a prélevée ou qu'il prélèvera plus tard pour la Trouma et les Maasrot. Du vrai Rabbi Meir, ce sont les paroles de Rabbi Meir. Alors, pour que il puisse prélever la Trouma et le Maasrot de cette manière, on est obligé à faire appel au principe de Brera, qui est le fait, comme nous avons dit, de définir après coup la nature d'une chose. Parce que là, pour pouvoir consommer ce vin, on est obligé de dire que le prélèvement a déjà, de la Trouma du Maaser a déjà pris effet, et ce n'est seulement après coup, quand il aura mis de côté la quantité correspondante de vin pour la Trouma et le Maaser, qu'on pourra déterminer que c'était ce vin qui était destiné dès le départ à être Trouma ou Maaser.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Selon la page d'Adaf Mouvav Amoubet. Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, Osrim, interdisent de prélever le Trouma et le Maaser de cette manière. Alors, la Gemara dit, Alma en Brera. Donc on verra, on voit de là donc, que Rabbi Yehuda, entre autres, pense qu'on ne tient pas compte du principe de Brera. On ne peut pas déterminer la nature d'une action après coup. On ne peut donc pas prélever la Trouma de cette manière, comme on l'a décrit dans la Mishnah. La Gemara demande, Mima, qu'est-ce qui t'a dit que c'est ça la raison? Dilma Shani Asam, peut-être que à propos du prélèvement de la Trouma, c'est différent que de Katanetama, comme la Breita enseigne elle-même la raison pour laquelle Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon ont interdit de prélever la Trouma de cette manière. Parce que la Breita dit Amroulo, ils ont dit à les Rabbi Meir, Iatamode Shemaï Bakaanot, n'es-tu pas d'accord avec nous qu'il y a lieu de craindre que l'outre ou la cruche contenant le vin se fente et s'éclate, et de manière à ce que le vin coulera et on ne pourra plus désigner du vin pour la Trouma, Benimsat Shotet Valim de Mafria. Il se trouvera donc que rétroactivement, il a bu du Tevel, c'est de la récolte, du vin dans ce cas, dont on n'a pas prélevé la Trouma. Ve'amar Lahem, et Rabbi Meir le Rabbi, Lekshei Baka. On n'a pas besoin de craindre, parce que, en fait, il peut faire attention et même garder cette outre de vin ou cette cruche, et donc il n'y a pas lieu de craindre qu'elle ne s'éclate. Donc théoriquement, on pourrait comprendre ici que tout le monde est d'accord qu'on peut tenir compte du système de Brera, et on pourrait définir après coup la nature d'une chose. Seulement le problème ici, c'est qu'en fait, cette Trouma ne sera jamais définie, c'est pourquoi on ne peut pas prélever de cette manière. On ne sait donc pas de cette Breita que Rabbi Yehuda ne tient pas compte du principe de Brera. La Gemara dit, et là, c'est pourquoi on dira Midetane Ayo. On apprend que Rabbi Yehuda ne tient pas compte du principe de Brera d'un autre endroit, de la Braïta de Ayo, c'est le nom d'un Tana. Midetane Ayo, Ayo a enseigné dans une Braïta, Rabbi Yehuda Omer dit, il s'agit ici de Eruv et Troumim, l'interdiction de Troumim est l'interdiction de dépasser un radius de 2000 coudées autour de sa résidence ou de la ville où il habite. Si toutefois il veut dépasser cette limite d'un côté, il a une possibilité de déposer le Eruv Trumim, c'est une certaine quantité de nourriture, à un endroit en dehors de sa résidence, ce qui revient en fait à considérer comme s'il établit sa résidence à l'endroit où il a déposé le Eruv. Ce qu'il fait, c'est qu'à partir de cet endroit-là, il pourra marcher dans un radius de 2000 coudées. Donc si, mettons, il a déposé son Eruv à l'extrémité est de la limite à ne pas dépasser, alors il pourra marcher jusqu'à ce Eruv et puis le dépasser encore de 2000 coudées. Par contre, à l'ouest de la ville, il n'aura pas le droit même de marcher un pas. Si, par exemple, il se trouve qu'il y ait deux drachotes à un endroit éloigné, donc mettons dans un bétamidrash situé à 4000 coudées à l'est de la ville et dans un autre bétamidrash situé à 4000 coudées à l'ouest de la ville, en adam atne al shne dvarim keechad, il ne pourra pas, un homme ne peut pas faire une condition sur deux choses à la fois, c'est-à-dire il ne pourra pas déposer son eruv aux deux extrémités est et ouest de la limite à ne pas dépasser, et puis laisser sa décision pour le lendemain à quel drasha il voudra aller, et donc quel est l'endroit où rétroactivement le Eruv Trumin a pris effet. Et là, seulement, Imba Chacham le Mizrach, Eruv le Mizrach, s'il sait qu'il y a un Tamid Chacham qui doit donner une drasha, mais il ne sait pas de quel côté il va venir, admettons qu'il soit à l'entrée de Shabbat, au nord de la ville, à un endroit éloigné, et doit marcher en diagonale, soit vers l'est de sa ville, soit vers l'ouest de sa ville, ce qui trouve que ce rab peut arriver soit à l'est, donc en dehors de la limite où il peut marcher, soit à l'ouest. Alors là, il pourra dire, si le Chacham vient à l'est, alors je décide que mon Eruv prendra effet à l'est de la ville, le Maharav, Eruv le Maharav. Si le Chacham arrive à l'ouest de la ville, alors mon Eruv prendra effet à l'ouest de la ville. La Gemara comprend ici que c'est parce que lui, il remet sa décision au Chacham, c'est là où il décidera d'arriver, que prendra effet le Eruv. Aval le Kan ou le Kan lo, mais s'il y a d'autres Talmidei Chachamim qui doivent arriver de part et d'autre de la ville, il ne pourra pas le lendemain choisir rétroactivement là où l'Eruv aurait pris effet. La Gemara demande, Behadinan ba. Et en fait, on a posé une question à propos de cette Braïta. Maïchana le Kan ou le Kan de l'eau. Pourquoi est-ce qu'on dit que s'il y a d'autres Talmidei Chachamim qui doivent venir de part et d'autre de la ville, et donc il laisse sa décision au lendemain, où est-ce qu'il voudra. Quel drasha il voudra aller écouter, et donc quel est le Eruv Trumin qui a pris effet, parce que Dehen Brera, parce que Rabbi Yehuda pense qu'on ne tient pas du principe de Brera, et on ne peut pas donc décider le jour du Shabbat quel est le Eruv qui a pris effet rétroactivement à l'entrée du Shabbat. Alors, le Mizrach ou Maharav Nami, en Brera. Alors, même si c'est un seul Talmid Chacham qui arrivera soit vers l'est, soit vers l'ouest de la ville, aussi, on ne pourrait pas décider le lendemain, en fonction de l'endroit où le Talmid Chacham est arrivé, ou quel Eruv aurait pris effet, parce qu'on ne tient pas compte du principe de Brera, et donc le lendemain, le jour de Shabbat, on ne pourra pas décider quel Eruv a pris effet rétroactivement à l'entrée du Shabbat. Ve'amar et a dit Rabbi Yochanan, pour répondre à cette question, que Shekvar Bachacham. Ici, il s'agit dans un cas où le Chacham arrive avant le Shabbat, au Beit HaMidrash, soit à l'est, soit à l'ouest de cette ville, seulement la personne qui a déposé les roues ne le sait pas encore. Alors, puisque la chose se décide déjà à l'entrée de Shabbat, en fonction de l'endroit où le Chacham est arrivé avant Shabbat, c'est juste le fait que les gens ne le savent pas encore, n'empêche pas les roues de prendre effet, puisqu'ils ont déposé les roues sous condition, à savoir, là où le Talmid Chacham sera arrivé, où il s'avérera être arrivé, sera le Eruv qui prendra effet. En tout cas, nous voyons de cette braïta donc que Rabbi Yehuda ne tient pas compte du principe de Brera, et donc de là nous voyons l'opinion de Rabbi Yehuda. Alors, c'est pourquoi, toujours selon Rabbi Yehuda, comme nous l'avons vu dans le précédent, il n'y avait pas de tronc pour l'achat des couples d'oiseaux obligatoires, parce que si une des personnes qui a déposé l'argent dans ce tronc venait à mourir, tout l'argent dans ce tronc deviendrait pasoul, on ne pourrait pas l'utiliser pour l'acheter un corban. On ne pourrait non plus pas prendre une partie de l'argent en décidant par le principe de Brera, comme nous l'avons expliqué dans le cas précédent, que cet argent appartenait à la personne qui est morte et le reste de l'argent serait permis. La Gemara demande, Puisque maintenant, nous venons de dire que selon l'avis de Rabbi Yehuda, la raison pour laquelle il n'y avait pas de tronc pour l'achat des coupes d'oiseaux obligatoires, c'était parce qu'il ne tenait pas compte du principe de Brera, et c'est pourquoi si une personne venait à mourir, on ne pourrait pas utiliser l'argent qu'il y avait dans ce tronc pour acheter des coupes d'oiseaux. Haktiva Itle. Mais par contre, Rabbi Yehuda est d'accord avec le Tanakama qu'on pouvait inscrire sur les différents troncs l'utilisation qu'on en faisait, et on ne craindra pas que cela portera à confusion. Alors si c'est comme ça, Yom HaKippurim Namina Betre. Pourquoi pour Yom Kippur il n'y avait pas de piédestaux pour déposer à tour de rôle le récipient contenant le sang du taureau et le récipient contenant le sang du bouc, comme nous l'avons vu dans la Mishnah? C'est pourquoi, puisqu'il n'y avait qu'un piédestal selon l'avis de Rabbi Yehuda, le Kohen Gadol devait d'abord prendre un des récipients et déposer le deuxième. On n'avait qu'à faire deux piédestaux pour déposer donc à tour de rôle le récipient contenant le sang du taureau et celui contenant le sang du bouc. Nirtov alayu, on a qu'à inscrire sur les deux piédestaux respectivement. Celui-là sera pour le récipient contenant le sang du bouc et celui-là pour celui qui contient le sang du taureau. Rakhman répond, Mishum Khulsha de Kohen Gadol, Lavadate. On craint qu'à cause de la fatigue du Kohen Gadol, en ce jour de Yom Kippur, puisque c'est un jour de jeûne et il a beaucoup de travail sur lui, il risque de se tromper et de ne pas faire attention à l'écriture. Dei lo temach, parce que si tu ne dis pas que c'est à cause de cette raison qu'on n'a pas fabriqué de piédestaux pour déposer à tour de rôle le récipient contenant le sang du taureau et celui contenant le sang du bouc, Beloktivanami, même sans inscrire dessus lequel était destiné à recevoir le récipient contenant le sang du taureau et celui destiné à recevoir le sang du bouc, Hainafish, Vahaizuta. De toute façon, il y a déjà une différence entre le sang du bouc et le sang du taureau, parce que il y a beaucoup plus de sang dans le taureau que chez le bouc, et donc le récipient contenant le sang du taureau est beaucoup plus rempli que celui contenant le sang du bouc. Et si tu vas me dire qu'il peut arriver que le Kohen Gadol ne recueille pas tout le sang provenant de l'animal, et donc il pouvait se trouver qu'il pouvait même avoir moins de sang du taureau que du sang du bouc, c'est impossible, parce que celui qui fait la shrita d'un korban doit recueillir tout le sang du taureau. C'est même ce que le pasuk dit. Et tout le sang sera versé sur la base du misbeach. Donc on voit bien que c'est tout le sang qui devait être recueilli. Verki tema dilma mishta termine. Et ça veut dire que peut-être on craint qu'il y ait du sang du taureau qui se soit renversé en route. Et donc il se trouve qu'il y a la même quantité de sang de taureau que de sang du bouc. Et ça pourrait prêter à confusion. Et c'est quand même impossible de les confondre. Parce que hay chiver, le sang du bouc, et pâle de Haïsumak, alors que le sang du taureau est beaucoup plus rouge, donc on ne peut pas les confondre. Et là, Mishum Kulsha de Kohen Gadol, Avadate. C'est pourquoi on sera obligé de dire qu'il est possible qu'à cause de la fatigue du Kohen Gadol, il risque de se tromper et de les confondre. Non, Hachanami, ici aussi, c'est pourquoi, selon Rabbi Yehuda, on n'avait pas fait deux piédestaux, mais c'était un seul piédestal sur lequel le Kohen Gadol déposait d'abord le sang du taureau, et puis après, quand il voulait changer, elle devait en premier prendre le récipient contenant le sang du taureau et puis déposer dessus le récipient contenant le sang du bouc, ou vice versa. On n'a pas donc, on ne s'est pas servi de deux piédestaux. Mishum, Khulsha de Kohen Gadol, Lavadate. On craint qu'à cause de la fatigue du Kohen Gadol, il risque de se tromper et de les confondre. S'ils se retrouvent tous les deux à la fois déposés sur un piédestal, c'est pourquoi il devait toujours en tenir un dans les mains. Hahu denachit tamu de Rava. Il y a une fois, un chazan à Yom Kippur qui est descendu devant le Hamoud dans le Beit HaMidrash où Rava faisait la tfila, et en lisant le service de Yom Kippur, comme on le fait pendant le service de Moussav de Yom Kippur, Amar il a dit comme ça. Yatsa veinicho alken sheni shebaecham. Le Kohen Gadol sortait une fois qu'il avait terminé l'extraction du sang du bouc et le déposer sur le deuxième piédestal qu'il y avait dans le Echal. Natal d'Amatav et Niach d'Amatayr. Il prenait en premier le récipient contenant le sang du taureau et puis seulement après déposer le récipient contenant le sang du bouc. Alors Amar, Rabban lui a posé une question, et c'est en fait la manière dont il dit est contradictoire. Chada, Kerabanan. La première partie du coup, qui vient de dire, va selon l'avis de Rabbanan, ou qui disent qu'il y avait deux pédestaux dans l'Echal. Pourquoi il disait donc que le saint du bouc était déposé sur le deuxième pédestal qu'il y avait dans l'Echal, Pechada, Kerabiouda. Et la deuxième partie va selon l'avis de Rabbiouda, parce que tu dis que d'abord, il prenait le récipient contenant le sang du taureau, et seulement après il déposait le récipient contenant le sang du bouc. Emma, c'est pourquoi tu devras dire, Niyak Danasayir, Benatal Damapa. En premier, il a déposé le récipient contenant le sang du bouc sur le deuxième pédestal, et ensuite, il a pris du premier pédestal le récipient contenant le sang du taureau. Magma reprend le passage de la Mishnah qui dit, Nizam Imenu la parochet, Knegel Aron Mibachut, il aspergeait du sang du taureau sur le parochet, en face du Aron HaKodesh, de l'extérieur. Tanu Rabbanan. Les Chachamim ont enseigné dans une Braïta. Vechem, il a fait le Ohel Moed, le pasouk dit à propos du service de Yom Kippour, et c'est il fera la même chose pour le Ohel Moed. Qu'est-ce que ce pasouk vient nous enseigner? Alors la Braïta répond que ce pasouk vient nous enseigner la chose suivante. Que Shem, Shemazé, Lifnaïs et Lifnim, de la même manière que le Kohen Gadol de asperger à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, Kaf, Mazé, Be'echal, il faisait aussi des aspersions dans le Echal. Ma, Lifnaïs et Lifnim, Echad, le Mala, le Sheva, le Mata, Midam, Atav. De la même manière que dans le Kodesh HaKodashim, il faisait une aspersion vers le haut, cette aspersion dirigée vers le bas avec le sang du taureau. Kaf Mazé Ba'Ochal, alors il fera la même chose avec, il fera la même chose dans le Echal. Que Shem Shelifnaï Velifnim, Achad le Mala Besheva le Mata Midam Asayir. De la même manière que dans le Kodesh HaKodashim, il faisait une aspersion dirigée vers le haut et cette dirigée vers le bas avec le sang du bouc. Kaf Mazé Ba'Ochal, il faisait aussi la même chose dans le Echal. C'est de ce pasouk que nous apprenons que sur le parochet, donc à l'extérieur du Kodesh HaKodashim, le Kohen Gadol faisait des aspersions à la fois du sang du bouc et du sang du taureau, comme il le faisait dans le Kodesh HaKodashim. La suite du pasouk est Hashochen Itam Betokumatam, qui réside avec eux quand ils sont impurs. Le pasouk vient nous enseigner, Afilou Bishar Shem Tmeim, même quand ils sont impurs, ils font des avérotes, des péchés, Shrina et Mahem, quand même, la présence divine est avec eux. Amar le Haou Tzidouki, un Tzidouki a dit à le Rabbi Hanina.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.